I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime. C'est déjà le 25e, les semaines défilent, mais ne se ressemblent pas.
C'est bien vrai. Ah, bonsoir. Là,
bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis en ton compagnie donc, de Marion et ouais. Benjamin.
Bonsoir.
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 Vous êtes heureux d'être ici ? Vous avez l'air en forme.
Pour l'instant, on est bien.
Moi, je suis très heureuse, bien sûr.
Ça démarre bien.
Ouais. Parfait. Excusez-moi, qui êtes-vous ? Déclinez votre identité et votre chanson de la honte préférée, s'il vous plaît.
Oh, non.
Bah, commence.
Je le savais.
Non.
Moi, je m'appelle Benjamin. Je crée du contenu web en agence et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa, où je vais à la rencontre de gens inspirants. Il y a un dernier épisode d'ailleurs qui est avec Marion Séclin, ici présente.
Je ne sais pas qui c'est.
Parce que c'est une personne inspirante.
Merci.
Où on parle de savoir s'entourer. Et donc voilà, c'est des gens de milieux complètement différents. Je voulais esquiver cette question, mais j'ai une grosse lubie en ce moment qui est Houssine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Star Academy.
Ah, bah oui, bien sûr.
On reste sur les classiques quand même.
Of course.
Qui a fait une reprise de Être un homme comme vous.
Oh my god, mais oui, bien sûr.
Oui,
bien
oui,
sûr,
oui.
On la connaît
oui. Bah oui. Qui est bien mieux que l'original. Donc je vous invite à.
Alors sur ce point-là, je diverge.
Ouais, je diverge.
Verge.
Verge. Elle est bien, okay. Elle est bien, elle n'est pas mieux que l'original, mais elle est très,
elle
très
est,
bien.
Elle est très bien.
Bien
elle
sûr,
très, très bien.
Elle est exceptionnelle.
Donc voilà.
Et moi, je m'appelle Marion Séclin, je suis comédienne et scénariste, connue sur les internets sous le nom de Marion Séclin. Et je réfléchis à ma chanson de la honte préférée, celle que quand je l'écoute, j'ai un peu des frissons et genre j'ai un peu honte, c'est ça ?
Ouais, c'est un peu le
principe. Je crois que c'est Talk Dirty to Me de Jason Derulo,
oh,
qui est vraiment très très kiffante,
très bon
dès
choix.
Le matin très tôt, tu sais, et en plus les paroles sont d'un con, et bah c'est pas grave.
Ouais, c'est bien.
J'apprécie. Et je l'ai sur une de mes playlists Spotify, et c'est vrai que quand je la mets en aléatoire, il y a des petites perles un petit peu indé, très cool, et il y a ça, et je me dis, faudrait pas que je la mette trop en public, cette playlist
trop souvent,
quand même.
Hein.
Ouais.
Ouais, parce que Marion qui écoute Talk Dirty to Me, ça pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, non, mais elle est très dansante.
C'est vrai.
Elle reprend musicalement des passages de Emir Kusturica, si je ne me
pose pas de problème.
Elle est très sympa. Écoutez-la chez vous, vous m'en direz des nouvelles.
Et aussi, récemment, tu sors des vidéos sur l'internet mondial, notamment sur un site un peu sympa qui s'appelle mademoiselle.com.
C'est vrai, je l'ai fait, ça.
Qui s'appelle Sister Sister, c'est une série de vidéos.
C'est vrai, Sister Sister. Je dois raconter des trucs, c'est ça ?
Ouais, tu peux dire un peu ce que c'est ?
Alors, Sister Sister, en fait, c'est un projet qui a été initié avec donc Lou, avec qui je fais les vidéos, et en brainstorm avec Fabrice, parce qu'en fait, avec Lou, on n'a pas tout à fait 10 ans d'écart, mais on se connaît depuis que... Enfin, moi, je connais Lou depuis qu'elle a 4 ans, puisque sa mère est ma marraine. Et donc, on n'a pas de lien du sang, mais on a des liens de
l'amour.
Du cœur,
ouais.
Du love.
She's my sister from another mother, comme disent les États-Unis.
So cute.
Et du coup, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, mais avec 7 ans d'écart, je crois. Et du coup, on s'est dit, ce serait cool, parce qu'il y a plein de choses qui lui prennent la tête. Oh là là, mais je parle un français extrêmement peu correct, c'est gênant. Il y a plein de choses qui lui prennent la tête là, maintenant, qui, moi, me sont passées au-dessus de la tête il y a quelques années. Et du coup, on s'est dit, ce serait cool de parler de tous ces sujets sur lesquels elle commence à avoir la pression et où moi, je l'ai plus, ou à l'inverse, des trucs où elle se doute pas que ça va être chiant et j'adore ouvrir les yeux aux gens. Et leur dire, attention, ça va être chiant. Et donc, on a commencé avec un épisode sur les poils. Sur qu'est-ce qu'on faisait de nos poils, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce que nous on en faisait, est-ce que elle aujourd'hui elle a 20 ans et moi 27, donc on a bien 7 ans d'écart, merci à moi pour le calcul. Est-ce que on les traite de la même manière au même âge, quelle image on a grandi, essayez de comprendre ce que je dis, franchement je vais pas vous faire tout le boulot, ça va être chiant sinon.
Ça va être sympa pendant une émission où tu dois parler pendant une petite demi-heure.
C'est pour ça que je vais vous laisser commencer, comme ça je vais écrire des phrases à l'avance parce que sinon ça va avoir aucun sens. Et du coup c'est Il y a eu aussi s'ensuit des épisodes sur sur le rapport au corps, sur le rapport en général à la poitrine, au sein, au sexe aussi, et puis à venir les relations amoureuses, les trucs comme ça.
J'ai failli éternuer mais tout va bien.
Ah c'est ça, j'ai vu, j'étais hyper émue d'un coup et je me suis dit
non. Je me suis dit est-ce que je dis que je vais éternuer? Non,
parce si que... il fallait le dire, voilà. Parce que je me suis dit genre est-ce que j'ai les mots justes, est-ce que j'ai su toucher en toi l'amoureuse que tu es, Louise. Et donc voilà. Et
la dernière qui est sortie, c'était à propos de l'éducation sexuelle.
C'est vrai.
Que vous avez reçue, ou très peu d'ailleurs.
Oui, surtout, c'est bien vrai.
Surtout très peu.
Surtout très peu, oui. Sur les trucs qu'on aurait aimé qu'on nous dise avant de commencer à avoir une vie sexuelle, en fait. Et pas juste les trucs genre les MST. Et encore, les MST, c'est un grand mot. On nous a dit le mot MST et ensuite on s'est démerdé pour toutes les choper, pour se faire « Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est chiant. »
Ça, c'est chiant.
Ouais, ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai. Enfin, même quand on se croit préparé contre les MST, en fait, on ne l'est pas tant qu'on ne s'est pas rendu compte de la gravité de certaines infections. Et je ne parle pas que du sida, je parle juste d'à quel point c'est chiant pour la plupart des nanas d'avoir des MST qui sont en général des virus qui fonctionnent très bien, alors que les hommes sont plutôt porteurs sains en général. Donc du coup, même ça, on n'a même pas été alarmés sur le vrai danger que c'était. Et je me suis demandé aussi si 7 ans après moi, il y avait des gens qui avaient reçu une éducation sexuelle digne de ce nom. Et la réponse est non. Donc voilà, c'est
peut-être
des trucs
ça va
qu'on
venir.
Apprend en grandissant. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on en parle. L'avantage de Sister Sister, c'est que bah déjà nous on se connaît, mais il y a aussi le gap de génération nous empêche vraiment pas de communiquer. Et surtout, on est entre nous, on est en famille en fait. Donc on dit exactement ce qu'on veut.
Vous êtes libre de votre
parole.
Oui,
on est libre. Ouais, exactement. On n'est pas gêné. On n'est pas en train de faire ouh, c'est tabou. N'en parlons pas. Ce sera gênant. Laissons les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et puis c'est drôle de voir que finalement ça évolue pas tellement. Enfin, on est assez sur la même longueur d'onde, je pense.
Est-ce que c'est vraiment drôle ?
C'est drôle dans le sens où il y a un comique de situation qui permettrait une dramaturgie évidente, mais c'est pas drôle. Genre, j'ai pas pouffé, quoi. J'ai pas fait genre « c'est génial ». Mais effectivement, c'est
formidable.
Un peu... Ouais. Mais c'est très cool, du coup, ça nous permet de se découvrir plein de trucs l'une à l'autre, de se rappeler plein de souvenirs aussi, parce que c'est pas nouveau qu'on discute comme ça avec Lou, seulement on le faisait hors caméra, comme disent les gens de Secret Story, et là, le faire devant une caméra, en fait, on s'est aussi rendu compte que ça déliait vachement de langue dans les commentaires, c'était vraiment super intéressant, quoi. Ouais. Voilà.
Très cool.
Merci.
Et sachez d'ailleurs que car je suis une personne formidable et que je fais extrêmement bien mon travail, ces vidéos sont aussi disponibles en audio, en podcast.
Oh.
Voilà. Comme ça, vous pouvez les emmener avec vous.
Ah oui, si vous allez promener par exemple votre chat, votre chien, votre grand-mère.
Exactement, vous pouvez télécharger, il y a tous les épisodes en podcast aussi.
C'est cool.
Voilà. Avant de commencer cette émission, je rappelle aux gens de l'internet que nous sommes en direct sur YouTube et Facebook, comme toujours en fait, comme à chaque fois. Et que du coup, vous pouvez commenter en live sur YouTube et sur Facebook. Pratique, sur le chat, etc. Comme ça, on peut discuter et comme ça, on peut interagir. C'est cool. Et si vous écoutez un podcast, n'hésitez pas à commenter et à partager le podcast, dire ce que vous avez bien aimé, afin qu'on puisse discuter a posteriori. Voilà. Benjamin, propose de commencer, puisque Marion a besoin d'un peu de temps pour s'échauffer.
Ça marche. Aucun souci.
Je reviens.
Alors, ce soir, de quoi veux-tu nous parler ?
Écoutez, ce soir, je vais parler d'une méthode miracle qui a changé ma vie, qu'on le dise, et que j'aurais bien aimé connaître quand j'étais étudiant aussi, parce que c'est pas que pour les travailleurs, qui est une méthode qui a plusieurs objectifs. Moi, je fais partie de ces personnes qui, plus ils ont de missions et plus ils ont de choses à faire, plus ils sont paralysés. Tu vois, genre, j'ai énormément de boulot, je me dis « Ah bah cool, bah, je vais tourner la pelouse » ou « Je vais faire des choses que je ne fais pas normalement, tu vois. »
Je vais écouter énormément de morceaux que je connais pas, alors
exactement.
Que vraiment, j'ai d'autres choses à faire.
Ou alors, je vais traîner beaucoup sur YouTube, etc. Et bref, et à la fin de la journée, on se dit « Super, j'ai rien accompli, j'ai pris du retard sur tout » et c'est un peu un cercle vicieux. Et puis j'avais dans l'idée aussi de me dire comment je peux arriver à raccourcir mes journées en étant beaucoup plus productif. Donc j'ai cherché pas mal de techniques, j'ai essayé beaucoup de choses. Je sais que vous avez parlé du Miracle Morning aussi dans une émission. C'est des choses que j'ai testées aussi, que j'ai couplées en plus à cette méthode-là.
Oh.
Et donc ça, c'est une méthode en plus dont je peux parler parce que je l'ai essayée. J'ai abandonné, je l'ai réessayé, je l'ai réabandonné, réessayé. Ah. Et petit à petit, j'ai appris pas mal de trucs sur cette méthode-là. Et aujourd'hui, bah, je l'utilise assez régulièrement. Je pense que le teasing est fait. Ça s'appelle la méthode Pomodoro.
Ouais. Oh.
Alors pourquoi Pomodoro? Pomodoro, ça veut dire tomate en italien.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est basé sur les minuteurs de cuisine qui sont en forme de tomate en fait au départ. Maintenant, on en trouve de toutes formes. Mais au départ, c'est des petites tomates. Et donc, en fait, ça, c'était ça qui était utilisé. Ça part de plusieurs constats. Le premier constat, c'est de se dire que c'est pas quand t'es fatigué qu'il faut commencer à faire une pause. Et pourtant, on fait tout ça, quoi. On est à fond sur un truc et on se dit, ok, là, ça commence à me piquer les yeux. Ok, là, je commence à être un peu fatigué. Je fais une pause et en fait, c'est beaucoup trop tard parce que tu mets beaucoup trop de temps en fait à faire ta pause et à régénérer ton corps. Donc l'idée, c'est de savoir faire la pause au bon moment.
Ah, j'ai cru que tu allais nous dire, en fait, quand vous êtes fatigué, vous continuez jusqu'à ce que potentiellement vous perdiez un organe vital.
Exactement.
Et j'étais en train de dire, waouh, ça fait quand
je
même...
suis à trois organes vitaux maintenant et cette méthode fonctionne vraiment bien. Cool. Je suis très productif. Et du coup, le deuxième constat, c'est de se dire qu'en fait, on peut pas rester focus sur une tâche une heure. En fait, le cerveau, c'est impossible. Peu importe le métier qu'on fait, au bout d'un moment, forcément, on va décrocher. Forcément, on a l'impression, en plus, je sais pas si vous avez eu ça, quand on travaille sur les ordinateurs, encore plus avec une connexion, t'as toujours cette impression, au bout d'une heure, tu sais, d'avoir été connecté à fond. Et en fait, si tu regardes vraiment le temps où tu as eu une notif sur ton portable, où tu as eu une notif même sur ton ordinateur, une autre tâche, etc. Combien de temps tu es resté focus sur une seule tâche? Donc l'idée, c'est ça, c'est de pallier à ces deux trucs-là. Ouais. Donc la méthode Pomodoro, elle est simple. C'est en fait ce qu'ils appellent des Pomoro, en fait. Donc c'est des temps. Et donc en fait, c'est 25 minutes de taf, 5 minutes de pause, 25 minutes de taf, ça 4 fois, ce qu'ils appellent un Pomodoro. Et 15 minutes qui est ta pause en fait du milieu et après tu repars sur une session 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc.
Okay.
L'idée c'est que pendant 25 minutes évidemment ça fonctionne pas si en fait tu te mets sur une tâche, que tu démarres tes 25 minutes et qu'en fait tu sais déjà pas quoi faire et tu mets 10 minutes à te dire ah ok donc c'est bien ça qu'il faut que je fasse, ok donc en fait il te reste plus beaucoup de temps et après c'est ta pause et en fait du coup tu fais juste une journée de pause et à te remémorer tout ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Donc ça fonctionne qu'à partir du moment où tu t'es centré sur tout ce que t'avais à faire. Donc moi le matin en fait je me fais des to do en gros et je me dis bah ok j'ai tout ça à faire, maintenant il faut que ça rentre dans ces cycles de 25 minutes. Donc ça on pourra en parler tout à l'heure mais tout ne rentre pas en plus dans un cycle de 25 minutes, donc comment tu fais dans ces cas-là quand t'as des trucs vachement longs. Et en gros 25 minutes c'est le temps qu'il faut vraiment à ton cerveau pour être focus et où tu commences à décrocher et c'est là qu'en fait tu décroches par toi-même pour te remettre plus tard sur la mission, quoi. Une fois que t'as fait ça, et bah avant de lancer les 25 minutes, tu te dis ok bah là en 25 minutes je fais une tâche, mais vraiment une seule tâche, c'est ça, et je pars sur les 25 minutes. Et là t'enlèves toutes tes notifications, t'enlèves tout ce qui peut être néfaste justement à ta concentration. Ouais. Ça c'est le plus dur. Hein. Je suis d'accord que c'est horrible et même moi je me rends compte qu'en fait la moindre notif sur n'importe quelle application, ça passe souvent en priorité en fait par rapport à ce que t'es en train de faire là. Et ça, je me suis beaucoup remis en question. Tu cliques sur un SMS que tu viens de recevoir, et moi, tu fais, bah non, en fait, je peux le regarder dans 20 minutes, ça va rien changer.
Et en fait, tu mets ton portable à 8 mètres de toi, tu fermes toutes tes applications et tu gardes que celles dont tu as besoin, quoi.
C'est ça. Alors maintenant, au début, je le mettais en mode nuit, et après, quand j'avais des clients qui m'appelaient ou des trucs hyper importants, je me disais, mince, c'est vrai que j'ai raté l'appel quand même. Donc maintenant, je le mets en vibreur loin, et je regarde, et je me dis, ok, ça, c'est peut-être important, ça, c'est pas important, etc. Donc en fait tu fais tout ça pendant toute cette journée, donc ça te fait une journée normale et l'idée c'est que pendant les 5 minutes de pause, donc le plus dur en fait c'est au bout de 25 minutes, en général t'es hyper concentré sur ce que tu fais,
de ouf.
Et en fait ça sonne, il y a des applis hein, que je pourrais vous donner qui sont, que moi j'ai sur mon Mac, j'ai mon appli minuteur et tout, donc c'est hyper simple, j'ai pas le pomodoro, j'ai pas le minuteur qui laisse très stressant, certains l'utilisent hein. Et au contraire ça les booste en plus, ils se disent ok j'ai le minuteur, je sais qu'il faut que je remplisse, etc. L'idée c'est pas de se stresser, c'est d'arriver juste à rentrer dans le temps, quoi. Donc le plus compliqué c'est au bout de 25 minutes quand ça sonne, c'est de se dire ok là j'arrête vraiment, quoi. C'est-à-dire, là, je suis sur un truc, mais je fais 5 minutes où je déconnecte. En général, je m'étire, je fais d'autres choses, je déconnecte vraiment. Même pour ma vue, en fait, ça me fait du bien, vu que je bosse beaucoup sur les ordi. Donc, de juste voilà, refaire le point, etc., etc. Et après, de s'y remettre sur 25 minutes, après les 5 minutes de pause. Moi, j'avais peur au début que ça puisse pas s'appliquer à mon métier, notamment quand je fais du montage vidéo, par exemple, d'être hyper focus sur un truc.
Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais au quotidien, genre tes tâches un peu multiples?
Ouais. Alors, donc moi, je suis ce qu'on appelle content manager. Donc, je gère le contenu web, en gros, en agence pour des entreprises, des marques qui veulent se placer sur les réseaux sociaux. Okay. Une agence qui s'appelle Nasocial. Et donc, je travaille avec un community manager, je travaille avec un directeur artistique, etc. Et donc, moi, je suis... je chapeaute en gros la partie contenu, quoi. Donc contenu, c'est hyper large, hein. C'est autant du rédactionnel pour des médias que de la vidéo, que de la photo, que de l'illustration, etc., okay. etc. En gros, dès que vous ouvrez Facebook, c'est tout ce qu'il y a là, quoi. Facebook, vous enlevez le contenu, c'est une grosse coquille vide et ça sert pas à grand chose. Et c'est pareil pour tous les réseaux, quoi. Donc en gros, je fais ça. Donc moi, j'ai une grosse casquette, on va dire, qui va être de la photo et de la vidéo. Donc la vidéo qui est hyper chronophage, hein, sur du montage où ça prend énormément de temps, on est concentré sur un truc où ça peut prendre plusieurs jours, quoi, et où c'est des métiers où même moi là je me suis remis à dessiner par exemple il y a pas longtemps et j'ai testé la méthode Pomodoro et en me disant bah ouais mais attends tu sais t'es tellement concentré sur un truc et je pense que même quand t'es étudiant, quand t'es n'importe quel métier, tu dois avoir ces choses là où t'es focus sur quelque chose et où tu dis non j'ai surtout pas envie là d'arrêter maintenant sinon quand je vais m'y remettre ce sera impossible, quoi.
Ouais.
Ce que j'ai constaté en l'essayant pendant un mois et demi sur du montage vidéo, c'est que non seulement quand je coupais, quand ça sonnait vraiment, il y a une alarme, hein, donc ça sonne vraiment, et hop, tu dis, ok, je pose tout et je vais faire autre chose. Et ben, non seulement quand je m'y remettais, je savais exactement où j'en étais, c'est-à-dire que j'avais après mes 5 minutes de pause, je me disais, ok, j'en étais là, je m'y remets. Et en plus de ça, j'avais eu 5 minutes pour que mon cerveau régénère l'information et que j'arrive en ayant déjà du recul sur la vidéo. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, sur le montage vidéo en particulier, c'est que j'arrivais à faire des montages vidéo en 2 fois moins de temps que ce que je faisais habituellement, et qu'en plus, à la fin de la vidéo, j'avais énormément de recul, et j'avais plus le truc des yeux qui piquent, et de me dire, ok, je ne vois plus rien, ouais. On verra demain, quoi. Donc des fois, j'arrivais à envoyer des vidéos, en fait, directement après les avoir finies, parce que j'avais déjà le recul sur le truc, quoi.
Ah, ça, c'est pas mal. Mais alors, en fait, on en parlait quand on cherchait le sujet dont t'allais parler ce soir. Nous, enfin, Mimi nous en a parlé chez Mad, parce qu'elle l'utilise pas mal, justement, pour genre écrire des articles, et après, elle fait ses pauses, elle fait des réseaux sociaux, et puis après, elle fait autre chose. Et du coup, moi, j'ai essayé de l'utiliser au quotidien. Ça a pas trop fonctionné. Par contre, justement, quand j'étais en session de montage par exemple, j'ai fait J'irai dormir chez toi, où c'était un montage qui durait 1 heure, j'avais 3 heures de rush. Bah, j'ai vraiment mis énormément de temps à avancer pendant un moment. J'arrivais pas à grand chose. J'étais vraiment, je sais pas, un peu figée dans mon truc. J'arrivais pas à avancer. Et j'ai fait cette méthode-là. Et c'est vrai que ça a vachement aidé parce que j'étais focus. Et j'ai réussi mon truc, je l'ai monté en 2 jours, je crois, alors que j'avais déjà passé de nombreuses heures dessus. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé.
Et t'étais seule quand tu le montais ? Ou il y avait des gens autour de toi ?
Ouais, bah, en général, je me mets à côté, ou sinon, comme j'ai mon casque, personne...
Ça, c'est la grosse limite, parce que nous, par exemple, on est 5 dans un open space. Et donc, la grosse limite de cette méthode-là, c'est que pour rester focus, il faut pas que tu aies d'interruption.
Ouais.
Et donc, bah, au début, forcément... Moi, je testais. Alors, j'ai testé le casque, quoi. Donc, tu te mets au casque, tu fais, et t'as toujours un mec qui te fait « Tu sais, pour le mail d'un tel... » Alors, au début, tu réponds. Puis, tu sais, à un moment, t'es un peu excédé. Tu fais « Bon, par contre, en fait, là, je fais une méthode. C'est la méthode Pomodoro. Donc, tu sais, t'expliques. » Donc, j'ai expliqué à toute l'équipe et tout ce que je faisais. Et puis, bah, il faut que le temps que ça rentre, etc. Et puis, à un moment, ça t'énerve. T'arrives plus à faire les choses. Le temps que tu te reconcentres, en fait, tu vois que t'as foiré tes 25 minutes. Mais petit à petit, en fait, ça s'est fait, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a un respect du casque. Et mes collègues savent en fait que bah là, si je mets mon casque, c'est que je suis parti pour 25 minutes et que bah ils pourront me parler pendant les 5 minutes de pause, quoi. Donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut, soit de travailler seul, soit quand tu travailles à plusieurs, bah que t'aies le respect et que chacun. On s'est même dit ça pourrait être cool qu'en fait on ait carrément un gros minuteur et que tout le monde le fasse en même temps. Pomodoro. On s'est dit ça peut être un peu angoissant aussi, c'est le côté hyper timé. Et puis on n'a pas tous les mêmes métiers, pas tous les mêmes missions, etc. Mais ça fonctionne que comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté plusieurs fois d'ailleurs, parce que ça c'est grosse limite là-dessus, quoi.
Et t'as pas d'endroit à ton travail où tu peux être un peu tout seul, ou genre une salle de réunion, quelque chose comme ça ?
Si, ou même chez moi, hein. J'ai la chance aussi d'avoir un taf qui me permet de bosser chez moi quand j'ai une grosse session de montage, et ça c'est plutôt cool. Et puis quand je faisais quand je me levais à 5h du matin, bah en fait entre 5h et 9h, t'as vraiment personne pour te déranger, quoi. Même pas un client, pas tes collègues, etc. Donc là, j'enchaînais énormément de choses.
Du coup, tu faisais le Miracle Morning, tu te levais, et entre 5h et 9h pour travailler plus, en fait. Donc tu n'avais pas compris le principe
non,
du alors, Miracle
en fait,
Morning.
En fait, c'est pire que ça, c'est que je ne connaissais pas le Miracle Morning quand je l'ai fait. En fait, j'ai étudié les cycles circadiens.
Ah oui,
ils sont voilà, ces cycles de 24 heures en fait qui font que ton système digestif fonctionne, que tes cheveux poussent, que tes ongles etc. qui fait qu'en fait ton corps se régule, que si tu manges après 22 heures, en fait ton système digestif il s'arrête, donc ça sert à, tu vois, tu vas mal digérer, il se remet en marche à 5 heures etc. Et donc j'avais vu que ce moment de productivité justement où on était au maximum, c'était entre 5h30 et 11h30. Donc je faisais ça en fait, et moi qui étais le premier à dire je suis pas du matin, en fait j'arrivais à me lever etc. et je l'avais couplé avec cette méthode Pomodoro, histoire de pousser le truc vraiment jusqu'au bout. Et ouais, par contre, ce qui était fou, c'est que je pense que je l'ai fait pendant 2 semaines et j'ai accompli l'équivalent d'un mois de travail, quoi. Donc c'est assez fou. Et même moi, en fait, quand je m'étais fixé l'objectif, je m'étais pas dit que j'allais fonctionner comme ça, quoi. Et je me dis que, tu vois, en tant qu'étudiant, ça aurait été vraiment cool que je connaisse ça. Parce qu'en rentrant, on rentrait à 18h du lycée, par exemple. Mais en fait, t'es déjà vanné. T'arrives pas à t'y mettre. Toi, ça te paraît une montagne. Alors moi, je sais qu'en fait, ma solution, c'était de rien faire. Tu vois, de faire que l'essentiel, la toute base du truc. Et en fait, le matin, c'était une galère parce que je me levais un petit peu plus tôt et puis je faisais tous mes trucs à l'arrache avant. Alors qu'en fait, la méthode Pomodoro, elle est cool parce que c'est plein de mini victoires, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes, tu dis « Ouah, j'ai accompli ça en 25 minutes !» Et hop, et tu t'y remets. Et à la fin de la journée, en fait, ce qui est cool, c'est de faire le point sur tout ce que tu as fait. Et de te dire « Ok, là, j'ai fait tant de sessions de 25 minutes, et j'ai réussi à faire tout ça. » Et en fait, tu te rends compte que ça marche beaucoup mieux que, je sais pas si vous l'avez tous fait, mais moi, j'ai déjà été comme ça, et des fois, je le fais encore, à me dire « Ok, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. » Et en fait, tu fais une liste qui est 3 fois trop grosse, et où en fait,
ma vie.
Le début de la journée, tu sais, tu te dis « Ok, j'ai ça, ça rentrera jamais. » Et puis du coup, bah hop. Je vais sur YouTube. Allez.
Ouais, c'est voilà. Ça.
C'est ça. Alors que là, c'est OK, j'ai tout ça. Alors déjà, t'apprends à te dire, OK, ça va me prendre trop de temps, ça, c'est moins urgent, je vais faire ça demain, etc. Donc, il vaut mieux faire moins de choses. Et après, tu dis, OK, tout ça, ça peut rentrer. Et en plus, tu le décortiques dans des petits trucs de 25 minutes. 25 minutes, c'est très court. Et en même temps, ça te laisse le temps de faire plein de choses. Donc ouais, à la fin de la journée, tu ressens, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à ton workflow aussi. Enfin, tu vois, c'est cool, quoi. Tu dis, OK, j'ai fait plein de trucs, quoi.
Et tu disais qu'il y avait des pauses de 15 minutes. Donc les sessions, c'est 25-5, 4 fois, et après...
Et après, t'as une pause de 15 minutes qui est au milieu, en fait. Et D'accord. Après, tu repars sur ces 4
Donc,
sessions
en gros,
de 25.
Toutes les 2 heures, tu fais une pause de 15 minutes.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et tu peux manger ?
Après, tu t'arrêtes, en fait. Tu fais une session de 4, une pause de 15 minutes, une session de 4, et ça t'a fait ta matinée, en fait. Et tu pars manger, et puis tu t'y remets l'après-midi. Quoi.
D'accord. J'aimerais qu'on précise également, notamment ces méthodes qui sont des manières différentes de voir le travail et la manière d'appréhender aussi sa journée, qui marche beaucoup dans les métiers qui demandent de la créativité, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que booster tes performances, mais à qui, à quoi, enfin pour qui surtout. Et en fait, la réponse, c'est principalement pour soi. Et surtout, ces techniques-là, quelles qu'elles soient, elles permettent de passer vachement de temps et d'avoir du cerveau disponible pour penser à d'autres trucs. Et comme notamment tu fais un métier artistique et créatif, quand tu fais pas ton métier, quand tu t'occupes du contenu de ta chaîne, que c'est aussi important et que je veux juste, je dirais pas que ça marche pas dans tous les boulots, mais je veux juste qu'on rappelle aussi que si on le fait, c'est aussi pour nous en fait, et clairement. Que c'est pas forcément pour répondre aux exigences d'un. De quelqu'un au-dessus qui te fouette en te disant si tu travailles pas plus vite, je te défonce.
Et que ça fonctionne pas sur plein de métiers qui sont beaucoup plus manuels, par exemple, ou même des métiers où en fait t'as des horaires tellement précis qu'à un moment, si t'as des horaires fixes, c'est vrai qu'en tant que salarié, c'est pas la même chose. Et tu peux te poser la question des fois de te dire je suis plus productif, mais en effet, il me reste quand même du temps que je vends à mon employeur, donc qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me rajouter des choses, etc.
Ouais.
Donc l'idée, c'est pas d'entrer dans cette spirale de la productivité à tout prix et de faire rentrer le plus de choses possible.
J'imagine bien les étudiants aussi. Non, mais alors là, ça fait 25 minutes de cours, donc on fait 5 minutes de pause et on reprend. N'hésitez pas, j'ai besoin de mon temps de cerveau disponible pendant 5 minutes.
Ouais.
Mais ça ne marche pas.
Mais par contre, tu vois, c'est cool parce que moi, j'ai quand même des souvenirs avant le bac qui étaient hyper compliqués de révision, où en fait, évidemment, je m'étais pas pris à l'avance, donc je faisais tout, je pense que j'ai tout fait le dernier moi, tu vois, et qui en fait t'essaie de combler le plus possible, et au bout d'un moment en fait tu finis à 2 heures du matin, et t'avais commencé juste après les cours à 18h30, et en fait à 2h du mat tu retiens plus rien et tu sais même plus ce que t'as réellement retenu, quoi. Alors que là tu permets à ton cerveau d'avoir le temps de retrier, quoi. J'ai lu un truc qui était hyper intéressant, c'était que notre cerveau avait besoin de s'ennuyer. Et en fait, on sait plus trop s'ennuyer aujourd'hui. Moi, je m'en suis rendu compte que, tu vois, le moindre truc, aujourd'hui, je vais aux toilettes, je vais avec mon portable, quoi. Mmh. Et tu sais, des choses que je faisais pas avant, et maintenant, ça me paraît tellement logique. Je suis dans la rue, tu sais, j'ai le moindre moment de creux, même devant un film, des fois, je me dis, ah, je m'ennuie. Portable.
Ouais, c'est fou. Hein.
C'est fou.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, ça te permet pas à ton cerveau justement de faire tout le tri des informations qui te permet de mieux mémoriser, qui te permet justement d'avoir du recul sur tout ce que tu fais, quoi. Donc, la méthode Pomodoro, elle est cool parce que justement pendant ces 5 minutes où tu t'ennuies, ton cerveau il fait le tri, mais tout au long de la journée, quoi. Donc à la fin, t'es beaucoup moins vanné.
Et justement, pendant les 5 minutes et les 15 minutes de pause, tu fais quoi?
Alors, le matin, en général, je m'étire. C'est tout bête, hein, mais j'ai vraiment vu la différence de m'étirer le matin par rapport pour la fin de la journée, quoi. Tu vois. Alors évidemment, moi je suis ridicule, hein, tu vois, quand je le fais de moins en moins au boulot, tu vois, mais t'es devant tes collègues et puis t'es ok, Tim Ryan, ok, bizarre celui-là. Sinon, des fois je regarde, enfin oui, en fait c'est pas moins bizarre, mais des fois je regarde au loin, tu vois, je regarde dans la rue. Donc tu vois, des fois je vais faire un petit tour. Nous on est dans une pépinière d'entreprise, donc en fait il y a plein d'autres boîtes, etc. Donc c'est assez grand. On a un espace de coworking, donc on peut quand même se balader. Le matin je vais boire un café, etc. Quoi. C'est vraiment les 5 minutes où tu vas te déconnecter. Après je dis pas que je vais pas regarder mes notifications pendant dans les 5 minutes, ouais. Quoi, parce que évidemment au bout d'un moment je les regarde, mais j'essaie au maximum de pas de vraiment déconnecter de l'écran et de pas me rapprocher du taf, quoi.
Ok, c'est bien, parce que moi je n'arrive pas à faire ça.
Est-ce que ça prend vite? Est-ce que si demain je commence, demain c'est déjà trop cool et j'ai une journée géniale?
Et bah honnêtement, ouais. Et honnêtement, j'étais le... Alors...
ça me va.
Je pouvais pas...
J'étais le...
Parce que j'ai plus le time là, de m'adapter à des techniques. C'est genre où ça marche direct, où ça dégage, parce que...
En fait, l'avantage de cette technique, tu vois, elle a pas... c'est pas comme la méditation, etc., où t'as des choses très philosophiques derrière, où t'as un truc très long-termiste, tu vois. Là, c'est-à-dire que en fait, c'est hyper cartésien, quoi. T'as un truc opérationnel, c'est ok, t'as ton minuteur, bam, 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 je fais ça, et à la fin de ta journée, tu sais exactement ce que t'as fait, quoi. Donc tu dis, soit je l'ai foiré, ça n'a pas marché par ma faute, tu vois, parce que j'ai pas respecté le temps, parce que ça, j'ai pas voulu le faire. Et après, qu'est-ce que je mets en place le lendemain pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs, ou alors que j'abandonne complètement, mais ça, c'est comme tout. Et puis, en fait, voilà, à la fin de la journée, tu te dis pas, elle est pourrie cette méthode, parce que j'ai pas réussi, etc., quoi. En gros, en général, tu peux que t'en prendre à toi-même si t'as pas réussi la méthode, et tu peux te dire que soit c'est pas fait pour moi. Mais tu peux pas dire, ok, non, mais faut plutôt voir ça sur le long terme et tout, quoi. Ce qui est compliqué, c'est changer ses habitudes, en fait. Hein.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, t'as arrêté plusieurs fois parce que t'as tes collègues qui t'arrêtent, parce que t'as ton portable qui t'arrête, parce que, en fait, tu t'arrêtes tout seul en te disant, tiens, moi, ça m'arrive de me dire, alors, je fais pas forcément la méthode Pomodoro, mais de me dire, je vais avancer sur ce truc-là. Et chez Mademoiselle, on a un truc de discussion où on est toutes en ligne en même temps sur Slack. Et donc forcément, quand il y a quelqu'un qui fait un hat à ton nom, ça pop. Mmh. Et du coup, tu vas sur le truc, puis tu lis un autre truc. Et après, mais t'es perdu. En fait, t'avais un objectif de base et t'as passé vraiment 20 minutes à faire autre chose. Et moi, ça m'arrive souvent avec la musique parce que j'adore écouter des nouveaux trucs que je connais pas. Et donc, des fois, je clique au hasard sur des morceaux et en fait, j'aime pas. Et donc, du coup, je vais cliquer sur un autre truc, puis en fait, j'aime pas. Et en fait, je perds du temps. Je perds genre 10 minutes à chercher un nouveau morceau au lieu de focus sur autre chose. Et juste, c'est pas grave si t'as pas de la musique que t'aimes bien dans tes oreilles. Vraiment, fais autre chose.
Moi, j'ai trouvé une méthode très simple à ça. C'est que je quitte Mail, je quitte Slack et je lance une playlist Spotify, en général sans paroles, pour que, tu sais, je m'attarde pas sur un truc.
Que j'allais dire, moi, je chante, en fait. Moi déjà, si je bosse en musique, j'écris pas des mots, j'écris... Et si je chante en même temps, du coup, je fais une story où je fais du playback et c'est terminé, quoi. C'en est terminé de... Non, la musique, faut plus jamais écouter de la musique pendant que je travaille. C'est horrible.
Mais si j'écoute pas de musique pendant que je travaille, non, je peux pas.
J'écoute
de la musique avec des paroles et des morceaux que je connais pas.
Mais tu vois, moi, je pars sur Youssine, c'est terminé. Je sais que là, mes 25 minutes, elles sont perdues, tu vois.
Mais forcément, Youssine, facile. Pareil, moi, tu me mets match nul de Kelly et Eloquence, je suis partie et je ne travaille plus. Mais bon.
Je m'étonne.
Non, ouais. Ça demande un peu de rigueur là-dessus, justement. Mais c'est plus sur le changement d'habitude, en fait. Mais honnêtement, j'étais assez surpris de voir que ça arrive très vite Parce qu'en fait, j'étais, les premiers jours, j'étais très vite content à la fin de la journée, tu vois. Et j'avais pas cette sensation de, ah, j'ai trimé toute la journée, j'ai fait encore plus d'heures, tu vois. Et en plus, je me dis, en plus, je suis en retard sur tout et j'ai pas été si productif que ça, tu vois. Ouais. Cette impression de brasser de l'air, tu vois. Et de dire, de se dire, non, mais c'est bon, j'ai fait plein de choses, regarde, là, j'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, tu dis, bah ouais, maintenant, en fait, t'as tellement, c'est tellement vite fait, tu vois, sur un ordinateur de brasser de l'air, de cliquer sur plein de liens, faire hop, hop, et puis repasser sur tes mails, etc. Ouais. Et là, en fait, tu dis, bah non, je me focus vraiment sur un truc et je le fais, quoi.
Et ça marche aussi si t'es multitâche, si par exemple, les tâches que t'as à accomplir, c'est répondre à tel mail, c'était chercher tel truc.
Ah là, t'es forte.
Je le savais.
T'es forte.
Si c'est vraiment répondre à un mail, donc ça va te prendre quoi, les 7 minutes montre en main. Du coup, tu vas aller regarder qu'est-ce qu'il faut que tu fasses d'autre. Et en fait, si tu vas avoir plusieurs tâches à faire dans les mêmes 25 minutes, ou est-ce qu'il sait mieux? Voilà, non, mais démerdez-vous avec cette langue, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Ou est-ce que c'est plus pratique quand t'as une tâche comme le montage qui est linéaire par là?
Ouais.
Bah, l'idée, c'est qu'en fait, soit t'as une très grosse tâche dans les 25 minutes, et dans ce cas-là, tu la découpes en sous-tâches, quoi. Tu dis, bah, les 25 prochaines minutes, je peux faire ça, et après, je vais plutôt partir là-dessus, mais c'est dans le même projet, quoi, sur un montage vidéo, tu vois. Tu dis, bah, ok, là, je fais un premier découpage pendant les 25 minutes, après, je vais plutôt m'occuper de la synchro avec le son, des niveaux, enfin, tu vois, des trucs très techniques, mais où tu t'arrives quand même à avoir des petits objectifs, quoi, et pas à te dire à la fin de la journée, bah, j'ai fait ma vidéo, quoi. Et en fait, maintenant, t'as eu plein de successions de trucs que t'as fait, quoi. Après, pour les mails, il y en a plein qui ont des techniques complètement différentes, quoi. Il y en a qui se font un pomodoro, une session de 25 minutes le matin, et ils se disent, ok, bah là, pendant 25 minutes, je vais répondre à tous les mails qui me prennent moins de 2 minutes à répondre. Et répondre à tout, quoi. Et hop, et après, ils classent les mails qui prennent plus de temps pour une autre session de 25 minutes. Donc après, c'est plus ça, quoi. C'est plus que t'arrives à voir. Au début, c'est compliqué parce que on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de mal à calculer le temps qu'on met réellement à faire les choses. Et souvent, le temps réel, il a rien à voir avec la perception du temps qu'on a, quoi. C'est-à-dire, des fois, tu vas dire, ouais, j'ai vraiment trimé sur cette vidéo ou sur cette tâche-là. Je savais pas comment le faire et tout. J'ai passé beaucoup de temps. Et en fait, quand tu regardes vraiment, t'as pas passé tant que ça. C'est surtout que ça t'a tellement saoulé que t'as eu l'impression que c'était hyper long, ouais. Quoi. Mais à l'école, c'était exactement pareil, quoi. Tu sais, 2 heures. Moi, je sais que 2 heures d'anglais, c'était pas la même chose que 2 heures de philo, par exemple, tu vois, où ça n'avait.
Ah, c'est sûr, ouais. Et 8 heures de philo par semaine, c'était long. Ouais.
C'est du bac L, ça.
Ah oui.
Non, moi, j'avais.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là, 8 heures. Oh, moi, je commençais le samedi matin avec philo.
Oh bordel.
Ouais.
Survie.
J'ai eu mon bac.
Les cours le samedi.
Ouais, le samedi matin.
Chaud.
Okay. Mercredi et samedi matin.
Et du coup, la méthode Pomodoro, désolée, je...
Oh, je t'en prie, on est là pour parler de mon établissement scolaire.
Est-ce que tu l'as fait au quotidien, vraiment tout le temps? C'est-à-dire, tu fais pas genre le matin Pomodoro et l'après-midi, tu fais autrement? Ou c'est juste tout le temps Pomodoro, quoi qu'il arrive?
Non, ça va dépendre parce que tu vois, typiquement, quand j'ai une session de 10 jours de tournage, bah, en fait, je vais pas faire la méthode forcément. Pomodoro parce que je vais pas commencer à tourner l'interview et faire « Ah bah attendez, là, ça fait 25 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes, on ça reprend, cool. Retiens ta phrase, on reprend après. »
D'ailleurs, ça fait 37 minutes qu'on a commencé, c'est ça qu'on aime, désolé. Maintenant, on va faire une pause de 5 minutes et on revient.
J'aimerais
non, ça
trop.
Marche pas. Non, ça ne marche pas du tout.
Donc voilà.
Du coup, t'abuser en fonction de ce que tu c'est de ça. Ton taf, quoi. Ouais,
et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, en fait, ça ne fonctionne pas avec toutes les missions non plus, donc évidemment. Après, je le fais au maximum quand je sais que je vais passer une journée au bureau et que je vais faire des choses très fixes, tu vois. Ou en plus, à la fin de la journée, tu peux dire « j'étais au bureau ». Voilà. C'était plutôt quand t'es en tournage, tu te dis « bah ouais, là, j'étais là, après on a changé, on a fait ces scènes-là, on a changé de lieu et tout », où t'as l'impression quand même d'avoir une journée plus active.
Oui, où tu sais ce que t'as accompli, quoi.
Tu le fais aussi avec tes hobbies? Tu disais tout à l'heure quand tu dessinais, est-ce que tu le fais aussi avec des trucs sympas qui te concernent, qui sont pour des projets perso?
Ouais, alors j'essaie. Alors les vous êtes vraiment sympas. Par exemple, je les monte comme ça parce que je me rends compte que en plus je chope des plans de coupe que je vais trouver ailleurs, etc. Ou des fois j'ai pas trop de recul, je sais pas trop à quel moment les mettre et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait au début je faisais le bourrin. Je me disais ok, je me fais une grosse session là. Je pense qu'on se l'est tous dit. C'est allez hop là je m'y mets. Et en plus en général c'est parce que c'est déjà trop tard et c'est pour le lendemain. Donc tu dis ok là je fais une grosse session, je m'y mets. Et au final, dans la réalité, tu dis non, en fait, c'est pas possible, je suis éclaté, j'y arrive pas. Donc, en général, je le fais pour les vous êtes vraiment sympa. Surtout le soir, en fait, où je me rends compte que je suis moins productif maintenant. Ce qui était bizarre parce qu'avant, je montais la nuit, par exemple. Alors que maintenant, je me rends compte que je préfère me lever le matin et faire tout ça. Je le fais quand je sais que je vais avoir les yeux éclatés, que je vais pas avoir de recul, etc. Mais c'est très compliqué parce que quand t'es sur une tâche qui vraiment te passionne, ou tu sais, t'es là, tu fais ouais, ça c'est trop cool et tout se goupille trop bien, ça sonne, t'as envie de dire non, en fait, tu vois, là j'ai pas envie d'arrêter. Donc là, j'ai même du mal, en fait, j'ai moins de mal, en fait, à l'appliquer dans mon boulot que pour des trucs perso. Après, franchement, je pourrais l'appliquer dans plein de trucs dans ma vie et tout. C'est moi aussi derrière qui me met une barrière, tu vois, et qui me dit, je vais pas commencer à timer toute ma vie non plus, tu vois. À un moment,
oui, c'est clair que après, ça devient compliqué.
Ouais, ça devient un peu l'angoisse.
25 minutes pour lire et 25 ouais. minutes pour faire à manger et ouais. 25 minutes
pour Ken. Et on ne Ken en 25 minutes, ah, et pas plus.
C'est tout, hein, parce que sinon, moi, après, j'ai 100 minutes de pause, s'il te plaît.
Tu reviens parfois trop tard de pause. Dis-moi la vérité. Parfois, tu reviens et ça fait 7 minutes.
Oui,
ça fait 10.
Oui, c'est vrai. Non, ça arrive. Et si j'ai un appel, parce que j'ai déjà eu ce dilemme d'être à un quart d'heure et j'ai un appel d'un client, mais que je dois prendre maintenant.
Ouais.
Je me dis, si je rappelle dans un quart d'heure et que c'est urgent, etc., voilà, ça m'éclate tout. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je décroche. Et en général, je coupe la session de 25 minutes. Je décroche, je passe le temps qu'il faut au téléphone. Et en général, je relance une session de 25 minutes derrière.
Okay.
Donc ça peut fausser un peu.
Ça annule toute la journée. Genre, si c'est pas 25-5, 25-5, 15-5, 25-5, 25-15, à la fin, genre juste...
Non,
s'auto-détruit et en fait, t'as pas été productif.
Non, juste, il a 15 minutes sur sa pause déj.
Non, mais c'est là que le corps humain est bien fait et à la fin de la journée, il dit pas, mec, quand même, t'as fait 4 minutes de rab ou t'as fait une pause de 6-7 minutes. Tu vois, il y en a qui le font vraiment, qui sont vraiment pas bien s'ils font pas les pile 25 minutes ou qu'ils ont un peu débordé sur la pause.
À l'inverse, est-ce que ça t'arrive de déborder sur les 25 minutes?
Je crois que mon boss regarde cette émission. Ouais, franchement, ça m'est déjà arrivé, mais j'essaie justement de pas le faire parce que je me rends compte qu'en fait c'est là que je ressens la fatigue et je me dis ah tout ça pour ça et puis en fait non je suis fatigué et je me mets plus de temps tu vois à me remettre dans la tâche. Donc au maximum non j'essaie vraiment de respecter le truc quoi. Mais bon si tu dépasses de une minute en général sur que soit la pause ou la session, ton corps va pas dire ok mec là
bravo.
C'est pas timé comme il faut.
Est-ce que t'en parles à tes collègues? Tu disais que vous êtes en open space et que vous alliez mettre un timer géant, je me doute que vous en avez discuté un peu.
On en a discuté, vraiment, ça a été une vraie discussion. Hein. Je suis en pleine évangélisation de tous mes collègues.
N'hésitez pas.
Non, mais parce qu'en fait, typiquement, même si on n'a pas tous les mêmes missions, on a des réalités de poste qui sont complètement différentes. Au final, on fonctionne tous de la même manière, quoi. Donc, on aborde différemment nos missions, mais on a tous ce truc de toutes les missions qui arrivent, comment gérer. Ça, c'est vraiment un truc, en plus, qu'on t'apprend jamais, en fait, tu vois. Où t'arrives dans le monde du travail et à aucun moment dans ton cursus scolaire on t'a dit en fait tu vois tes journées ça doit se gérer comme ça, t'as moyen de gérer ton temps, t'as moyen tu sais d'aborder les choses et du coup en fait tu t'es un peu perdu, moi j'étais beaucoup perdu dans mes premières expériences de job en fait et j'ai testé des toutes petites boîtes comme des grosses boîtes et en fait tu te rends compte que les logiques elles sont pas du tout les mêmes dans des grosses boîtes tu vois où des fois en fait la logique c'est juste de gagner le plus de temps possible et de faire le plus de pauses tu vois où toi t'es là tu fais ah bon c'est comme ça que ça se passe et puis derrière tu t'arrives dans une toute petite boîte où ça n'a rien à voir où t'as pas de pause définie etc. Donc on t'apprend jamais à prendre du recul en fait là-dessus et à te poser les vraies questions de moi en fait je peux gérer mon taf comme je veux quoi. Et la méthode Pomodoro à mon avis elle fonctionne pas pour tout le monde mais en fait il y a plein d'autres méthodes qui fonctionnent et je pense même que j'ai rencontré un mec qui fait des Pomodoro mais lui il fait des sessions de 35 minutes. Parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'au bout de 25 minutes, il était trop frustré et que en fait à 35, c'était la limite sur laquelle il commençait à fatiguer mais qu'il arrivait à durer toute une journée comme ça quoi. Donc voilà, en fait, ça s'ajuste selon.
C'est comme d'habitude, hein, quand on donne une méthode, t'as le droit de l'adapter et de faire ce que tu veux avec.
Mais c'est bien d'apprendre qu'il existe d'autres méthodes que juste de te réveiller le matin, arriver à un endroit, faire des trucs et repartir, quoi. Moi, j'ai mis du temps aussi à comprendre que genre le Miracle Morning, ça marchait pas pour moi parce que dans le mot Miracle Morning, il y a le mot morning et j'étais persuadée qu'il fallait que je le fasse le matin jusqu'à ce que je comprenne que le concept du Miracle Morning, je pouvais très bien le faire le soir et que je préfère me coucher.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et plus tard, et faire exactement ce que les gens font le matin très tôt.
Ouais.
Et c'est, mais c'est dur, ça s'appelle Miracle Morning, tu vois. Donc j'imagine que quand en fait, c'est comme tous les nouveaux trucs que t'apprends, c'est que tu te dis genre, bah en fait, on m'a appris à gérer ma journée comme ça, donc ma créativité, elle a dû s'adapter à ça, et ma productivité aussi. Sauf qu'un jour, tu te rends compte qu'en fait, peut-être pas. Du coup, t'apprends une nouvelle méthode, et c'est pareil, du coup, t'as l'impression que cette méthode, c'est la méthode, et que si jamais tu l'adaptes, en fait, vraiment, genre, ouais. C'est tellement libre d'adaptation. Et c'est cool d'avoir des bases de méthodes qui existent et qui marchent chez des gens, mais il y a un truc magique sur la capacité d'adaptation aussi, quoi.
Ouais, mais c'est un truc que mon esprit fait aussi, de se dire non, mais en fait, si on t'a dit que c'était le matin, c'est le matin. Et, ouais, et j'arrive pas à me dire, ah mais non, mais du coup, c'est pas la bonne méthode, parce que moi, je vais adapter, si en fait, c'est globalement ça. Hein. On va pas se mentir, c'est pas grave si tu fais, si tu fais 7 minutes de pause au lieu de 5, et si tu fais 35 minutes... Et si, je sais pas, bref, il y a plein de méthodes qui sont adaptables, donc ne vous inquiétez pas. J'espère que tout ça vous a donné envie de tester la méthode Pomodoro, que ça soit au travail, ou même pour faire vos devoirs, ou pour, je ne sais pas, vos étirements. 25 minutes d'étirement, 5 minutes de pause, 25 minutes d'étirement, peut-être ça marche.
J'ai une grosse journée.
Ça fait beaucoup.
Non, mais je vais essayer dès demain. Dès demain, voilà, je vais le faire. Merci.
Ok, challenge vous... accepted. On veut un récap.
Je vous ferai un récap.
Très bien.
Alors du coup, j'ai une question. Mes stories, du coup, je l'ai fait pendant mes 5 minutes de pause. Ou est-ce que mes stories, sachant que c'est un peu mon travail, c'est considéré dans les 25 minutes?
Mais après, tu fais déjà des stories de 25 minutes. Donc je pense que ça peut rentrer parfaitement
dans une session.
Ouais, tu fais session 25 minutes, story pointillé. Et puis on est bon.
Ça marche.
C'est bon.
Il y a juste une application. 5 minutes
de pause, puis plusieurs fois. Oui, alors,
il y a une application qui s'appelle Bifocused.
Oh,
très bel accent, n'est-ce pas?
Oui.
Qui est cool, qui fonctionne, je crois, autant sur Mac que sur.
Donc c'est pour l'ordi, hein, ordinateur.
Exactement, et qui fonctionne, c'est une appli en fait, donc vous l'avez aussi sur vos portables. Et qui voilà, qui a un petit minuteur hyper bien foutu, où comme ça, il y a juste à cliquer sur oui, je démarre la session, je redémarre, etc. Ça vous évite de calculer par vous-même ou d'avoir le nez sur l'horloge, où là, c'est pas bon. Quoi.
Exactement. Et sinon, moi, j'avais un site qui s'appelle tomato-timer.com. Car comme son nom l'indique, Pomodoro, tout ça, là, on l'a dit tout à l'heure, la tomate, et ben tomato-timer.com, voilà, je place ça ici. Et je propose qu'on fasse une pause musicale avant de passer au sujet de Marion Séclin ici présente, qui va vous parler d'une série de séries. Comment on appelle ça?
Une franchise de séries.
Une série de séries. Qui s'appelle Law and Order. Et j'ai annoncé sur l'article que c'était New York Police Judiciaire. Elle m'a dit, mais non, c'est New York Police Judiciaire. Et trois autres séries que j'ai oubliées parce que je ne les ai pas retenues.
Parce qu'en fait, moi, j'ai écrit à Louise Law and Order. Et dans ma tête, c'est comme toutes les séries. Commence par Law and Order. Dans ma tête, c'était la série des séries. Donc, les trois principales. Et en fait, Louise, elle a fait, ouais, mais moi,
j'ai tapé sur l'internet.
Battue et tout.
J'ai tapé sur l'internet. Je vais pas vous mentir, j'ai tapé sur Google Law and Order et le premier truc qui sort, c'est New York Police Judiciaire. Je me suis dit, elle veut parler que de ça, du coup.
Non.
Mais non, c'était.
Vous parlez de Law and Order. Fou.
Mais on va faire une pause musicale et on revient pour vous parler de ça.
À tout de suite.
Et c'était la pause musicale et nous sommes de retour dans C'est ça qu'on aime. J'espère que vous êtes toujours sur l'internet pour nous écouter parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. nous sommes de retour avec Benjamin et Marion. Et c'est au tour de Marion de présenter son sujet du soir dans C'est ça qu'on aime. Une chose qu'on aime, c'est Law and Order.
Exactement. La dernière fois, j'avais parlé d'Hercule Poirot parce que j'avais envie d'essuyer les rumeurs négatives qui circulaient sur ce programme réservé, je cite, aux vieux. Je vais faire la même chose avec Law and Order, que j'appellerai Law and Order, et démerdez-vous avec ça, parce qu'en français ça s'appelle New York, quelque chose qui suit. C'est chiant d'appeler ça juste New York. C'est une série qui, pareil, a beaucoup d'idées reçues qui traînent dessus, c'est-à-dire que c'est un peu la série, tout le monde a l'impression quand t'allumes ta télé, à n'importe quelle heure, il y a Law and Order sur une chaîne.
C'est vrai.
Donc personne regarde, parce que un truc qui passe souvent à la télé, c'est que ça n'a aucune logique. On ne sait pas pourquoi on zappe, mais on zappe. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mes études d'art dramatique, je devais travailler pour payer mes cours. Donc, je travaillais dans le service. Enfin, j'étais serveuse. Et donc, je rentrais hyper tard le soir, plutôt vers les 3-4 heures du matin. Et donc, comme les gens qui rentrent leur journée de boulot, je me mettais sur mon canapé, j'allumais la télé et je regardais Law and Order. Il n'y avait pas un choix hyper grand. Et j'ai commencé à regarder cette série de séries. Et j'ai trouvé ça... assez fou. Et puis ensuite, les années sont passées et il y a eu cette espèce de grosse folie autour des séries. Je pense que c'est assez récent avec les Breaking Bad et autres Dexter et autres grosses séries qui sont arrivées. Parce que quand moi j'étais ado, je me souviens qu'on avait Friends.
Dawson. Il y avait pas mal de séries télé, mais c'était des séries dans le style de Law and Order où c'est un épisode, une enquête ou comme dans Doctor House, ça va être un malade. Et à chaque fois, à la fin, t'as un dénouement, t'as vaguement une histoire qui se passe sur le long terme de la série, mais c'est pas des trucs fous, quoi.
Mais on les suivait pas.
Véronica Mars, par exemple.
Ouais, mais on les suivait pas vraiment, en plus. C'était à passer à la télé. Là, maintenant, avec les Netflix et autres VOD, on suit une série comme on regarde un film, tu vois.
On est sur les trous, quoi.
On attend, c'est vraiment genre le divertissement qu'on attend tous. Et à l'époque de Law and Order, il n'y avait pas cette espèce de folie autour.
C'est
vrai. Donc les gens s'en foutaient. Et puis si ça passait à la télé à des heures indues, c'est que clairement, c'était pas très intéressant. Et donc, j'ai commencé à regarder et à comparer ça à tout ce que j'avais pu voir en série policière. Je suis passionnée des séries policières. C'est ma passion avant tout dans la vie et de tout ce qui est policier en général.
Quelle série policière par exemple?
Eh bien,
Law and Order.
Hercule Poirot, je regarde beaucoup Esprit Criminel, bien sûr.
Mathieu Grégebleur, enchanté.
Oui, exactement. Et puis, comme tout le monde, j'ai aussi bouffé des experts parce que c'est pareil, ça passait sur TF1 le dimanche soir, donc j'étais là à rien les experts. Et donc, j'ai un barème de comparaison pour pouvoir vous dire à quel point Law and Order, donc je vais enfin le dire en français, New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale et New York Section Criminelle sont des séries d'une qualité assez hors du commun pour plein de raisons et elles durent depuis très longtemps. Donc, je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte qu'il y avait dans le paysage des séries, les séries qu'on attendait, mais on ne voulait pas les voir, on ne voulait pas voir qu'elles étaient là. Le premier point qui fait que moi ces séries elles m'ont extrêmement marqué, c'est que dans ces donc je vais juste revenir sur les séries bien sûr pour que chacun soit conscient. Donc New York Police Judiciaire, c'est donc des enquêtes qui se passent à New York. Les épisodes sont en général coupés en deux de manière pas toujours équitable, mais c'est pas grave. Donc t'as d'abord une partie sur l'enquête criminelle. Donc la police qui cherche c'est qui le méchant. Et en deuxième partie d'épisode, tu vas avoir le procureur qui poursuit donc les criminels, c'est-à-dire donc l'État qui poursuit. Et le procès en général, ça va jusqu'au bout du procès ou pas. Ça c'est très intéressant, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur la loi en général et évidemment la loi aux États-Unis. Et il y a des sujets qui sont traités dans le New York Police Judiciaire qui sont très très impressionnants, un peu très actuel et qui pourtant, encore une fois, c'est une série qui a commencé dans les années 90. Je sais pas pourquoi on n'était pas là. Et là, on est là en train de faire « Ouais, il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent de tel truc. » Et en général, c'est très bien. Il y a des très, très bons angles. Je reviendrai dessus dans un second temps. Ensuite, on a New York Unité Spéciale, qui est donc dans l'unité spéciale pour les victimes, qui parle beaucoup plus des crimes sexuels, donc avec des victimes qui sont vivantes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas systématiquement dans les séries. C'est qu'en général, il y a un meurtre, la victime, elle est décédée. Elle n'est pas là pour en parler.
Oui, on cherche un suspect.
Voilà. Là, c'est le même truc, sauf qu'on a beaucoup de victimes qui sont aussi vivantes. Et ça, en termes de problématiques, les épisodes sont pas pareils du tout. Il y a aussi une partie qui se passe souvent dans les... Enfin, ça arrive assez souvent aussi qu'on aille jusqu'au procès, puisque les inspecteurs doivent de temps en temps témoigner, ou il y a de temps en temps des sujets qui nécessitent que... Enfin, les scénaristes, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, on va pas leur en vouloir. On va aussi au procès, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, New York, section criminelle, où il y a des bêtes et méchantes enquêtes pour meurtre, hein, en général, mais avec un duo de personnages qui n'a quasiment pas changé depuis... Enfin, qui a dû changer peut-être une ou deux fois, pour en tout cas ce qui est de New York section criminelle. Et c'est pareil, les personnages sont très drôles, c'est très bien monté, c'est très très bien fait, c'est très bien écrit.
Et donc on suit à chaque fois la même équipe.
La même équipe.
Et donc il y a tu dis là pour la dernière section criminelle, il y a deux
enquêteurs, ouais. Okay. Bah il y en a d'autres, mais ils sont secondaires qu'en fait on les voit pas trop, et ils sont souvent en binôme, et on suit donc l'inspecteur Goren, qui est joué par Vincent D'Onofrio, qui est extrêmement bizarre.
Je pense qu'en fait il y a des articles de Jack Parker sur Mademoiselle qui disent ces acteurs dont vous connaissez la tête mais pas le nom.
Ouais. Et voilà, il doit être dedans.
Il y a dans la liste des trucs, les trois quarts des acteurs, ils ont joué dans New York Police Judiciaire, New York Section Criminelle, et tu le sais pas, et t'es là, ouais. Ah mais oui, maintenant que j'ai ta tête.
Alors pour les rageux qui ragent, 92% du cast de Orange is the New Black a joué dans un de ces épisodes d'une de ces séries. Mais vraiment, elle a fait une victime, un témoin ou je ne sais quoi. Mais vraiment, et c'est très drôle de voir aujourd'hui, quand tu regardes les épisodes...
Ça marche aussi dans FBI Portée Disparue. Il y a eu plein de guests.
Ouais, voilà, beaucoup. Il y en a toujours beaucoup. Et là, c'est très drôle de voir qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont dedans.
Des stars maintenant, quoi.
Ouais, qui sont des stars maintenant et qui ont commencé dedans, comme j'avais dit aussi pour Hercule Poirot, c'est-à-dire le côté... c'est vraiment de la merde, ces séries. Bah ouais, enfin ça donne beaucoup de travail à beaucoup de gens, et en plus c'est vraiment pas de la merde, c'est vraiment des séries très bien écrites. La première chose qui marque dans ces trois séries, c'est qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Et il n'y a pas des personnages féminins qui sont là pour repasser des slips. C'est des personnages féminins. Dans New York Police Judiciaire, il y a la chef de la police, qui est jouée par une femme noire de surcroît. Et à aucun moment, il n'est rien discuté. C'est la chef de la police, fin du game. Il y a beaucoup de médecins légistes qui sont des femmes. Il y a évidemment, dans New York Unité Spéciale, Olivia Benson, qui est donc... Pareil, elle est là depuis le début de la saison. Il y a 18 saisons dans New York Unité Spéciale. Si t'as le time, tu vois, cet été, mets-toi bien, regarde-les. Et elle commence, elle est juste inspectrice. Et à la fin, elle devient le chef du monde de cette section-là. Okay. Donc, c'est jamais discuté, en fait. Aucun de ces personnages féminins n'a, à un moment, son poste qui est discuté, sa légitimité ou sa crédibilité qui est discutée. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnages qui sont des personnages féminins. Et je vois beaucoup, dans beaucoup de séries qui sortent, qu'on se dit, bah, c'est la femme d'eux, c'est la mère d'eux, c'est quand même franchement dommage. Bah, regarde un peu ce qui sort depuis les années 90. Ouais. Et en général, aux États-Unis, il y a beaucoup de séries, notamment policières, où il y a des femmes médecins, il y a des femmes procureurs, il y a des femmes juges, énormément de femmes juges. Et le genre du personnage n'est jamais discuté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où Olivia a ses règles et doit donc partir. Enfin, les scénaristes ne sont pas sexistes pour un sou. Et en général, quand il y a des problématiques, elles sont très bien abordées, malgré le fait que ça se déroule aux États-Unis. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre de sympathique en termes de trucs originaux ?
Tu disais hors antenne que c'était souvent inspiré de faits réels.
Alors oui, c'est souvent inspiré de faits réels ou de procès réels. Et notamment, ce qui me marque là, c'est qu'ils ont fait, après l'affaire DSK, ils ont fait un épisode donc de New York Unité Spéciale avec...
Ça tourne encore là ?
Un DSK.
Ça tourne encore là ?
C'est-à-dire ?
Bah genre ils font encore des saisons.
C'est, ouais, genre, là ils tournent encore.
Quoi.
Non, c'est pas fini.
Pas comme Hercule Poirot, il y a la fin.
Non, c'est pas fini.
Waouh.
Ouais, c'est pas fini. Okay. Et ça continue à être vraiment cool. En plus, moi je les suis sur Instagram et j'aime bien voir les petits le shooting à New York et le peu de fois où je suis allée à New York, à chaque fois j'étais là, waouh, imagine, il y a Olivia Benson et tout. Ça n'arrive pas, hein. Ça n'est jamais arrivé encore, mais je croise les doigts. Mais donc ça tourne encore, et ils ont fait peut-être un an après l'affaire DSK un épisode dans lequel ils citaient l'affaire DSK en disant, ah, on a une affaire un peu similaire, ça ressemblerait fortement à l'affaire DSK. Et en fait, c'était l'affaire DSK, sauf qu'au lieu de te montrer que les scénaristes avait vraiment pris parti, il te montrait comment l'opinion des gens comptait dans cette affaire. Ouais. C'était pas une affaire sur est-ce que cet homme politique a vraiment abusé de cette femme de chambre, c'était qui on va croire. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que police, pour faire en sorte qu'on croit, entre guillemets, la bonne personne, et qu'on mette pas un mec innocent en prison, ou à l'inverse, qu'on ne... qu'on soit capable quand même de résoudre ouais, ce qui est potentiel. Voilà. La victime. Et c'est toujours très intéressant, c'est toujours tourné comme ça. Ça parle aussi beaucoup de sujets actuels. Il y avait, j'ai un épisode de, alors, les spoils, c'est pas très grave, en fait. Et c'est pareil, les histoires de l'équipe, c'est quelque chose qui est en fond. C'est-à-dire que tu vas t'attacher aux personnages parce que tu vas bien les aimer. Mais en vrai, leur vie privée, c'est pas ce qui est mis en avant. Contrairement à dans Les Experts, où ils t'en sortent des caisses et des caisses et des caisses sur, non, Brendan. Et du coup, à un moment, tu t'en fous. T'es là, non, mais, enfin, résous l'enquête, en vrai. Quelqu'un est mort. Qu'est-ce que tu fous? Donc ça prend pas le pas sur les enquêtes et chaque épisode se suffit à lui-même. C'est pour ça que mon angle c'était ne zappez pas quand vous le voyez, c'est qu'en fait vous pouvez très bien tomber sur un épisode, passer un bon moment et passer à autre chose. Vous êtes pas obligé de vous bouffer les 456 épisodes plus 410 épisodes plus 195 épisodes.
Boum.
Voilà, vous êtes pas obligé. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait ça a fait un très bon divertissement qui est encore diffusé à la télévision, qui fait en plus pas mal d'audience. Bon ça en général on s'en fout, hein, c'est pas l'audience qui fait la qualité, mais là c'est vraiment de qualité et je pense qu'il faut laisser une chance à ce programme. Et donc, je me souviens d'un épisode sur l'avortement où en fait un médecin faisait des avortements tardifs là où les hôpitaux refusaient de le faire. Donc, il faisait ça un peu en secret. Et en fait, il se fait tuer par un groupe secret de personnes qui sont pro-vie.
Oui.
Et le procès, c'était « Ok, on plaide coupable, on a tué cet homme, mais il tuait des gens ». Et dans les États-Unis, où c'est encore très difficile d'expliquer à des gens que c'est pas des gens vivants, les embryons, et que même si c'était un peu avant, enfin bref, qu'avant de naître, c'est pas forcément des gens, tu suivais ce procès et c'était hyper intéressant. Et les scénaristes étaient tellement, je dirais pas neutres, mais ils étaient. Je suis jamais énervée devant cette série et Dieu sait que je suis en colère dans la vie. Tu sais, il n'y a pas des moments où je me dis « Ah bah d'accord, bah comme par hasard, parce que c'est une femme. » Ou « Ah bah super, super image. » Tu vois, je me dis jamais ça devant cette série parce que c'est super bien fait. Et qu'est-ce que j'avais d'autre?
Est-ce que t'as des personnages préférés?
Bah évidemment Olivia Benson, donc
donc dans à laquelle, parce que du coup il faut rappeler
New York Unité Spéciale.
Ok.
Donc Olivia Benson.
C'est quoi son personnage?
C'est une inspectrice de police qui donc s'occupe de l'unité de allez bye de l'unité spéciale donc des affaires de viol et de violences sexuelles en général. Il y a eu un épisode aussi excellent sur le viol sur homme où ils ont il y a eu un homme qui a été violé par une femme et qui disait bah j'ai été violé et bah j'avoue j'ai eu une érection et tout le monde disait bah du coup t'as pas été violé enfin tu l'as bien voulu du coup bye et c'était très très intéressant de voir comment les inspecteurs de police étaient en train de lutter pour dire non mais si en fait on va enfin porter plainte parce que ça n'a jamais été fait il faut le faire. Et c'est vraiment ancré dans notre réalité, ce qui fait que tous les épisodes sont toujours écrits avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et tu peux retrouver des cas qui ont existé. Il y a aussi beaucoup de fois où ils t'écrivent, c'est inspiré de faits totalement pas réels. Si ça aurait un rapport avec la réalité, c'est pas notre faute. Mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est vraiment des choses qui nous touchent tous et des problématiques qui, moi, me parlent toujours un peu. Et je trouve ça vraiment fait de manière très intelligente. Donc, Olivia Benson, qui est un simple inspecteur de police, qui devient chef de la police, là, depuis pas très longtemps. Là, je te dis ça, elle est...
J'ai le temps, si je commence à regarder depuis la saison 1, on a le temps.
Et encore, c'est pas un gros spoil. Tu vas pas dire, oh non, ça va tout gâcher, les enquêtes. C'est pas très grave. Il y a également le personnage du docteur Young, qui est un personnage qui est le psychologue, qui est appelé donc toujours dans New York Unité Spéciale pour faire des bilans psychologiques des victimes potentiellement avec des problèmes psychologiques, qui lui est ouvertement gay dans la série aussi, et qui est asiatique. Donc c'est des choses très rares en fait qu'on n'a pas vues et qu'on a tendance à applaudir quand les séries font ça récemment. On a tendance à dire... Diversité, représentativité, inclusivité, waouh. Bah ouais, mais cette série, elle date des années 90. Il y avait déjà ça. Et c'était déjà... je pense que c'était des grands pas, en fait, pour...
Il n'y a pas de blague pourrie sur ça, quoi. Non, c'est juste, voilà, cette personne,
oui,
est comme ça.
Il le fait, ouais.
C'est ça.
Oui, il doit y avoir en plus un épisode où ce psy-là, il le dit, en disant, bah moi, je vous le dis, parce qu'en tant que gay, on a tendance à vivre telle chose. Point. Ouais. Personne fait, oh... Il n'y a pas de réaction.
Il n'y a pas d'action autour de...
Non.
Juste, c'est un fait. Voilà, c'est juste ça.
Voilà, c'est juste
et
ça.
Continuons à vivre l'épisode où il y avait un truc, genre un meurtre.
Voilà, exactement.
Un truc sympa.
Exactement, très sympa en général.
Benjamin, est-ce que tu as déjà regardé ça?
Ouais, et j'ai, pendant que tu parlais, les... alors c'est un truc que j'ai beaucoup oublié, et là on en parle depuis un petit moment là aujourd'hui, et du coup il y a plein de choses qui me reviennent à l'esprit. Et moi je, quand j'ai regardé ça, que ça passait à la télé, je devais avoir entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et moi j'ai surtout un souvenir de, d'épisodes qui n'étaient pas trash en fait, qui parlaient de choses très très lourdes, et que en fait je pouvais regarder à 8-9 ans sans avoir des scènes de violence, de choses comme ça. Alors je sais pas si c'est encore comme ça dans les...
Non, toujours pas. Enfin, si tu comprends pas ce qu'ils disent et que t'as 8 ans, t'auras pas de scènes qui vont te choquer.
Et du coup, j'avais pas, enfin, même tu vois, j'ai pas de, de souvenirs malsains, etc. Par contre, je comprenais les choses et ça m'a même, je pense, ça m'a même permis de d'apprendre plein de choses et de réfléchir à certaines choses qui me paraissaient pas logiques ou tu vois, de m'interroger vraiment sur bah, toutes ces affaires là. Mais vraiment sans avoir de choc, quoi. Où je sais qu'à 8 ans, j'ai regardé d'autres trucs qui m'ont beaucoup plus choqué, tu vois.
Oui, bah, tout de suite, quand tu regardes Grey's Anatomy avec des scènes où il y a de la chirurgie, bon, bah, c'est moins sympa.
Non, c'est sûr. Mais c'est. Ouais, et encore, c'est. Enfin, moi, je sais que c'est. Je dirais pas que c'est pas comparable à Grey's Anatomy, juste non, dans le sens où c'est vachement moins enrobé, en fait.
Ouais.
Ils essayent pas de te ménager pour te dire des trucs. Ils sont pas en train de te raconter des petites histoires d'amour, et je pense pas que ça veut pas dire que le sujet est, enfin oui, le sujet est beaucoup plus poignant parce qu'il est beaucoup plus grave, mais effectivement il y a quand même, ils ont réussi à faire moins glauque en termes, enfin, et pourtant on parle de d'histoires d'amour de gens qui ont les mains dans le corps de quelqu'un, alors que là on parle d'histoires horribles de gens qui où il y a pas de sang, il y a pas de, enfin, ou en tout cas très très peu. J'ai pas de souvenir de trucs où j'ai particulièrement fait ah, les effets spéciaux, quelle horreur.
Et puis les affaires sont toujours d'actu. Je suis retombé sur des vieux épisodes. Alors j'ai pas vu les nouveaux, du coup ça m'intéressait de voir. Et déjà je trouve que esthétiquement ça n'a pas vieilli. Je trouve que c'est encore hyper d'actu. Ça m'a pas choqué, tu vois, comme d'autres séries qui ont pu me choquer, où je me dis ah ouais, ok, ça ressemblait pas du tout à ça. Quand, j'avais pas cette impression là quand je regardais. Et puis je trouve que ouais, ça fait pas vieilles histoires où tu dis ah oui, mais ça c'était avant, etc. Quoi. Il y a toujours ce truc de où je me dis ah oui, mais ça pourrait encore exister, et ça soulève encore plein de choses hyper d'actu.
Ouais.
Et il y a une question que je me posais, est-ce que les personnages principaux ont changé au fil des saisons, ou c'est toujours les mêmes personnes, genre ça fait 18 ans qu'ils sont là?
Alors pour New York Unité Spéciale, ça fait 18 ans qu'ils sont là quasiment. Il y en a pas mal qui sont partis, il y a pas mal des rôles masculins qui sont partis. Il y avait Ice-T qui jouait dans la série, on l'embrasse, salut Ice-T si tu nous regardes, qui est parti. Il y avait aussi le personnage de Munch qui est parti. Munch, vous savez forcément qui c'est, il a les cheveux gris et des grosses lunettes noires comme ça, et la gueule un peu allongée. Il a une sacrée gueule, Munch. Et c'est genre de type, t'aimerais que ce soit ton papa, tu fais « Ah, oh, il est trop gentil et tout ». Tu le vois ou pas sur Internet?
Je cherche. Alors,
Non, tu le vois pas.
Ah si, ok, ah, si, oui, tout à fait.
T'as aussi le personnage d'Eliot Stabler, qui est en fait l'équipier de Olivia, mais qui part. Ce qui est assez intéressant avec le personnage d'Eliot Stabler, c'est qu'il est un peu l'opposé d'Olivia en termes de tout ce qui est idéologie. Il est marié, il a 137 enfants, il croit en Dieu, il pense que l'avortement, c'est tuer des gens. Et en fait, ça n'empêche pas que son avis personnel, enfin, ils ont des débats entre eux, en mode, ouais, je suis pas d'accord, bah, moi, je suis pas d'accord non plus, mais attends, t'as pas le droit de dire ça, ouais, ok, merci, bye. Et en fait, tout ce qu'on entend sur le fait de blâmer les victimes, le fait de le fait de dire aux nanas, bah oui, mais enfin, vous avez vu qu'on était habillés, ce genre de truc, ça n'apparaît jamais dans la série. Enfin, ça apparaît, mais sous forme de quelque chose qu'il faut combattre, et t'auras jamais de la part de la police, ou en tout cas des inspecteurs, un inspecteur qui va dire à Lana, bah oui, mais enfin, excusez-moi, mais vous marchez dans New York la nuit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as jamais ces moments-là, en fait. Et
du coup, ces moments-là sont désamorcés dans les discussions entre
toujours
les personnages.
Ouais. Et t'as aussi beaucoup ils ont des vrais bons scénaristes qui étudient la psychologie des victimes en général aussi, et qui sont capables de reproduire chez les personnages des sentiments de culpabilité, ce genre de choses, et t'as toujours un inspecteur pour dire oh attends, c'est pas de ta faute, et puis c'est pour aucune raison sur terre, enfin c'est assez dans ma tête, c'est clair, dans ma bouche c'est très flou.
Non, ça, je trouve ça plutôt clair,
bon, alors c'est cool,
ça passe,
c'est cool, mais c'est à regarder à tout prix.
Très bien,
voilà, je vous le dis, ne zappez pas. Notamment, il y a un épisode avec Isabelle Huppert.
Trouvez-le.
L'épisode est très cool. Par contre, elle se double elle-même. Et les acteurs qui doublent et les acteurs qui jouent, c'est vraiment pas la même chose. Donc en fait, elle joue très bien, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais c'est dur de faire son propre doublage, et de faire du doublage en général, c'est difficile, c'est le même métier, ouais. Mais c'est pas les mêmes capacités, donc c'est difficile à regarder en français. Je vous invite à les regarder en anglais si vous pouvez. Et il y a Sharon Stone aussi qui fait une substitut du procureur un peu stylé aussi, de temps cool. en temps, elle apparaît. Et encore une fois, il y a un acteur de Orange is the New Black, celui qui joue Pornstache, qui a un rôle assez important, puisqu'il joue un espèce de roi des gros connards.
Ça change.
Et il joue dans plein d'épisodes de la saison, d'une saison assez récente.
Okay.
Et ils jouent tous trop bien, en fait, du plus petit des guests au plus gros des personnages, ils jouent tous vraiment bien. Donc tu vas passer un bon moment, ça va pas être chronophage, puisque tu vas regarder la fin d'un épisode, le début d'un autre, puis t'iras te coucher, ou tu vas regarder deux épisodes en entier et ce sera tout. Et c'est le genre de bon moment, en fait. Ce serait dommage de zapper pour mettre Hanouna, par exemple.
Oui, c'est con.
Voilà.
Et si tu trouves Isabelle Huppert ou Sharon Stone en regardant la télé, n'hésite pas à envoyer un petit message à Marion pour lui
bien
dire
sûr,
hey, pour j'ai dire... pas zappé.
Alors ouais, et j'ai trouvé
et
l'épisode
j'ai
sur les facilement 700 épisodes 800.
Easy, franchement facile.
800. Je vais faire des maths, je reviens dans une heure et demie, je calcule combien il y a d'épisodes en tout.
T'as dit quoi, 400 et combien?
456, 410 et 195. À vous.
800, 900, quelque chose. Bref,
ouais, exactement.
À peu près quoi.
Ça fait 6, ça fait 7. C'était 9.
J'ai pas fait de calcul mental depuis le CP, donc je peux vous aider.
6, 7, 8, 9.
Voilà, je vous le dis.
Les 1061 épisodes.
Voilà.
J'ai vraiment fait une addition là avec mon papier. Et encore still shooting, comme c'est-à-dire qu'ils sont encore en train de tourner, donc on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 2-3 autres d'ici l'année prochaine.
Et donc t'as tout vu ou tu et non. Où c'est vraiment où tu fais
j'ai pas tout vu, j'ai même pas voilà, c'est ça, je zappe et je mate. Je suis pas du tout je vais pas aller les regarder en streaming, je vais pas chercher où est-ce que je peux les trouver légalement ou illégalement, je vais les regarder quand ils passent.
Tu n'as pas perdu du temps à regarder les 1061
non.
épisodes.
Mais non, j'ai pas eu besoin, j'ai juste fait oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bien écrit, que de quand date cet épisode, 1997. OK, très cool. Et je pense que c'est une série qui répond à tous les critères. Comparé aux Experts, c'est d'une qualité mais sans nom. Comparé à Esprit criminel, c'est pas pareil parce qu'on n'est pas sur des profilers, on est sur des enquêteurs de terrain. On est aussi sur une histoire de loi, et tu peux voir parfois comment la loi elle est complètement un peu niquée, et ça c'est hyper intéressant de voir comment la loi fonctionne, de comment certaines preuves sont irrecevables. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir la plus grosse preuve du monde que ce truc a été fait, si le juge dit ben non, en fait je la prendrai pas en compte, et ben t'es obligé de retourner à zéro, et tu te dis mais c'est pas juste, enfin il y a la preuve, enfin ça veut dire qu'il l'a fait du coup, et le juge il est là et non, irrecevable. Du coup t'apprends des choses,
ouais.
Tu t'essuies des injustices. Il y a aussi le personnage de Jack McCoy que vous pouvez pas avoir raté. Il a les cheveux blancs et d'énormes sourcils noirs. Je ah, le suspecte.
Moi je vais regarder sur internet, voilà. Mais je vous invite
regardez chez vous, Jack McCoy. Je le suspecte d'être mon père aussi. Lui aussi. Parce qu'on a les mêmes sourcils. Il a beaucoup...
Ok.
Bah oui. Et lui, c'est le substitut du procureur. C'est celui qui fait les plaidoiries. Enfin, c'est génial.
Tout à fait.
Très intéressant. Et vous pouvez du coup faire comme moi. En tout, j'ai dû voir peut-être 200 épisodes différents, peut-être plus, 300. Et j'ai pas fait le tour du coup, puisqu'il y en a plus de 1000. Mais j'ai réussi à quand même aimer cette série et aimer comme un snack, en fait. C'est
oui,
la série qui t'engage pas, en fait.
Tu regardes vraiment la série pour le côté ce que j'apprends sur comment ils traitent les victimes ou comment ça se passe au niveau de la loi en termes, enfin aux États-Unis, pardon, mais pas sur le fameux ce qu'on disait tout à l'heure sur Grey's Anatomy où il y a des milliers de petites histoires derrière que si tu rates un épisode t'as tout loupé. Là c'est vraiment pas ça. En fait le background des personnages n'est pas si important que ça. Et en
non,
fait si t'as loupé des épisodes c'est pas grave.
Oui non c'est sûr c'est pas grave. T'as pas beaucoup de, t'auras pas des scènes où tu te diras vraiment oh là là j'ai rien compris à cette scène parce que j'avais pas suivi ce qui lui est arrivé avant. Il y a un dernier épisode dont je voudrais parler et c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est un épisode où il y a un meurtre qui se passe dans un meurtre ou un viol qui se passe dans un immeuble et la seule femme qui est témoin est en fait une femme en situation irrégulière qui a quitté son pays et qui est donc qui n'a pas le droit d'être là et en fait la police lui dit si vous pouvez nous aider en fait on va pas vous renvoyer chez vous c'est juste aidez-nous s'il vous plaît sauf que le problème c'est qu'évidemment la police a pas tous les pouvoirs donc il y a des gens qui essayent de la renvoyer chez elle la substitut du procureur fait tout pour essayer de la garder ici de lui avoir des papiers de régulariser sa situation parce qu'elle a aidé la police notamment et en fait c'est un épisode où on découvre que l'asile politique n'est pas accordé en cas de viol à répétition. C'est-à-dire que tu as le droit de demander l'asile politique aux États-Unis pour toutes les raisons du monde, mais te faire violer plusieurs fois par un clan ennemi n'est pas une raison qui très nécessite bien l'asile politique. Et ça, je savais pas du tout. J'avais même pas idée dans ma tête, en fait, que juste tu pouvais arriver en disant, en fait, c'est chaud dans mon pays. Et les gens disaient, demande l'asile politique. Ouais. En fait, quand la dame dit, j'ai été violée par un clan d'un village voisin qui était, mais genre 12, 15, genre 120 fois. Et en fait, c'est pas recevable. Donc, si vous restez, vous êtes en situation irrégulière. Et du coup, la substitut du procureur quitte son poste pour se battre. Et donc, comme elle est avocate, elle reste avocate, mais elle quitte le bureau du procureur pour faire en sorte de faire accepter cette clause-là dans la loi pour demander l'asile politique.
Wow.
Voilà. Et ça, c'est un petit épisode comme ça d'un samedi soir. T'es là, t'es tranquille.
Tout va bien, quoi.
Mais c'est cool parce que c'est pas dit de manière à ce que tu te dises « Oh mon Dieu, j'ai pas fait de droit, je me sens con ». C'est vraiment genre, c'est très bien expliqué, c'est très bien amené, et à aucun moment tu te dis « Oui, j'ai rien compris à ce qu'elle dit, elle ». Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est quelque chose qu'il faut voir à un moment, et quand tu te sens pas représenté dans une série, tu regardes cette série, ça va beaucoup mieux.
Écoute, tu as mis de longs gants comme ça, et puis je vais peut-être regarder un peu la prochaine fois que j'allumerai ma télé, que je n'ai pas, mais je pourrais aller regarder un
si
petit truc.
Si tu tombes dessus, juste ne zappe pas, c'est tout ce que je te demande.
Très bien, je ferai ça dans ce cas-là. Merci Marion.
Merci à toi.
C'était chouette, je suis très contente de ce C'est ça qu'on aime. Ah, vous êtes content aussi. Oh, c'est
on est
super.
Très heureux.
Oh là là, c'est super. Je suis très heureuse aussi. Alors, écoutez, il est l'heure de se quitter puisqu'il est déjà 22h16. Je vous propose, ok, on va la refaire. C'est la fin de l'émission. Hein, j'ai du mal à parler. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube, à mettre un pouce bleu parce que j'aime bien les pouces bleus. Et si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, un commentaire à partager parce que ça fait connaître les podcasts de Mademoiselle et c'est cool parce que c'est moi qui l'ai fait, donc j'aime bien avoir vos avis, c'est toujours un peu cool d'avoir vos retours. Et si vous voulez participer à C'est ça qu'on aime, parce que c'est possible, vous m'envoyez un mail à louise@mademoiselle.com en me disant de quoi vous voulez parler et pourquoi c'est trop cool, et puis après je vous appelle et puis vous venez en C'est ça qu'on aime. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, c'est exactement ce que Marion a fait. Elle m'a dit, je voudrais venir parler de Law and Order. J'ai fait, ok.
C'est vrai. Et c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un nouveau truc.
Mais ça marche bien. Hein.
Ouais.
Ça marche bien. Et c'est moi qui ai été dire à Benjamin, vas-y, viens, c'est ça qu'on aime.
Et moi, j'ai dit, attends, si à Benjamin, je veux venir.
Voilà.
En plus, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
C'est exactement ça.
Moi, j'ai dit oui. J'ai dit, ok, je connais très bien cette émission, c'est génial, je viens. Oh. Je ne peux pas refuser.
Super, ça c'est un très bon commentaire par exemple. N'hésitez pas à mettre ce genre de commentaire.
Je leur posterai d'ailleurs sur YouTube.
Je suis très heureuse. Merci à tous de nous avoir suivis et merci encore à tous les deux. C'était très cool. On se quitte en musique et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Il y a l'émission le mardi. Nous serons le 22. On va parler de la première fois avec Alex Véter. Ça va être très cool. Après, il y aura un autre C'est ça qu'on aime, le jeudi, car c'est tous les jeudis à 21h. C'est formidable.
C'est bien fait.
Quel Allez. Bonheur.
Bye.
Salut.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.